Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le rapport de Régine Laurent sur la réforme des DPJ avec Camille Bouchard, psychologue, auteur en 1999 du fameux rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Régine Laurent dit, elle, préférer aujourd'hui un Québec digne de ses enfants. Comment Camille Bouchard interprète ce virage? Mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique constitue.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Et bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et le prof Taillon reçoit du courrier.
Oui.
Toutes sortes de questions de nos éditeurs, c'est fabuleux.
On est chanceux, la chronique, comme elle est régulière, elle suscite des esprits curieux qui anticipe la prochaine chronique en nous posant des questions. Donc aujourd'hui, j'ai cherché à regrouper plusieurs de ces questions.
Mais oui, on commence par Laurence Tillemant-Rousseau, qui nous pose une question sur le jugement au sujet de la loi 21, le jugement Blanchard, comme on l'appelle désormais. C'est rare d'ailleurs qu'on nomme un jugement comme ça, d'après le juge. Hein. Ça a été donc un jugement déterminant. Je te laisse résumer la question de notre auditeur.
Ben, l'auditrice, elle nous cite des extraits de l'arrêt Saguenay qui porte sur la prière là, du maire Tremblay. Puis dans cet arrêt-là, ben, on y fait référence au devoir de neutralité de l'État. On dit la neutralité religieuse est un impératif. L'État ne peut pas professer une expression religieuse lorsqu'elle crée une distinction, exclusion, préférence. La question, au fond,
c'est un jugement important, ça.
Bien sûr.
C'était rare quand même que la Cour suprême parlait de neutralité religieuse. Puis ça a mené à l'annulation de cette prière-là qui était prononcée par le maire Tremblay au tout début du conseil municipal.
Ah, le maire est même condamné à payer des dommages et intérêts à M. Simoneau, qui, on peut pas soupçonner là, d'être quelqu'un qui va subir une influence. Là. Ses convictions vont pas être ébranlées par le contact avec le maire.
Ouais.
Mais on lui reconnaît, comme personne qui assiste au conseil municipal, une liberté de conscience. Puis on considère que l'atteinte qui est faite à cette liberté de conscience par le maire mérite même une indemnisation.
C'était une prise de position très forte de la Cour suprême.
Oui.
Puis là, notre auditrice ou auditeur, il dit... Pourquoi le juge écarte ce raisonnement?
Oui, bien, il y a plusieurs éléments de réponse possibles. Mais le premier, c'est que nos litiges en matière de droits et libertés, c'est leur force et leur faiblesse, sont organisés autour d'une logique de cas par cas. Et très souvent, on tombe dans une approche, on prend un droit du catalogue, là, puis on l'analyse un peu en silo, en tunnel. Donc, dans les dossiers où on a des plaignants ou des plaignantes qui revendiquent la liberté individuelle d'exprimer une conviction religieuse, cette liberté-là, elle est dans le litige, je dirais presque surdimensionnée, on la prend au sérieux, c'est de ça dont il s'agit.
Mm-hmm.
Dans l'affaire Ville-Saguenay, ben là, c'est l'inverse. Le plaignant, c'est quelqu'un qui dit « moi, j'ai droit à une liberté de conscience qui est violée, bafouée par l'État avec sa prière du maire de la ville. » Donc, autrement dit, la manière dont le litige se configure a une incidence. Le juge n'est pas nécessairement dans une dynamique. Oui, il est là pour concilier les droits les uns par rapport aux autres, mais c'est une démarche intellectuelle qui repousse toujours à la fin de son raisonnement. On s'attaque d'abord et avant tout à l'analyse du droit qui est revendiqué par la personne qui est devant nous. Et dans le dossier loi 21, les plaignantes, ce sont des gens qui revendiquent le droit de porter un signe religieux. Alors, c'est clair que ça, la configuration du litige, ça peut avoir une incidence. Deuxième élément de réponse, ça, c'est celui que le juge utilise explicitement pour pour écarter le raisonnement de la Cour suprême dans Saguenay que notre auditrice, Laurence, sur lequel elle attire notre attention. Alors, le raisonnement du juge, c'est de dire, dans Ville-Saguenay, c'est un message actif. Le maire prend la parole, il prie il pose un geste actif. alors que les demanderesses dans, dans le dossier loi 21, elles seraient totalement passives, car silencieuses. Mais là, on en a parlé un peu la semaine dernière, il y a quand même un double standard dans la mesure où le juge dit ailleurs dans son jugement que c'est un message, que c'est une expression de conviction, mais il insiste sur le caractère silencieux de la chose et donc passif. À terme, ça devrait être un peu multifactoriel tout ça. On devrait tenir compte de l'intensité du message, le type de signe, le lieu, le contexte, le caractère répété du message. Tout ça devrait être considéré. Mais dans le jugement auquel on fait référence ces jours-ci, on a affaire à un raisonnement qui vise à écarter Saguenay en faisant une distinction fort simple. Passif, expression passive, expression active. Après, il y a un truc qui est un peu plus implicite. C'est un peu délicat, mais on peut se demander si... je vais le formuler d'une manière la moins polémique possible, mais si d'une certaine façon, les chartes des droits et libertés sont d'abord et avant tout, du moins aux yeux de certains, un instrument de protection des minorités. Alors, c'est une interprétation, une sensibilité idéologique qui est très présente. On peut se demander si, dans une certaine mesure, il n'y a pas aussi une préoccupation dans l'interprétation de la liberté de religion qui amènerait à être un peu plus généreux pour ces minorités qui, le reste du temps, vivent des stigmates, de la discrimination, etc. Puis on le voit, c'est quelque chose qui n'est pas explicite dans la jurisprudence, mais depuis une dizaine d'années, on a une série de décisions qui sont défavorables à la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses, mais qui concernent des litiges, disons, où la religion en cause est une religion, disons, de tradition chrétienne, donc associée à la majorité. Mmh. Et on voit que les litiges où la Cour est la plus généreuse et la plus pratique, une interprétation la plus extensive de la liberté individuelle de religion, sont souvent des décisions qui touchent aussi des identités minoritaires, des minorités qui sont plus souvent victimes de préjugés. Donc, est-ce que, ça, c'est pas clairement énoncé dans la jurisprudence, mais est-ce qu'inconsciemment ou implicitement, il n'y aurait pas ça qui joue aussi un devoir de retenue plus grand lorsqu'il s'agit de convictions largement partagées par la majorité, puis un devoir de permettre un peu plus d'expression individuelle lorsque c'est des convictions minoritaires. Disons que ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être implicitement décoder.
Lorsque, au fond, des religions anciennes qui faisaient partie, qui sont là, en présente au pays depuis sa fondation, et qui pourrait faire corps avec l'État, alors que les religions minoritaires, par définition, il y a moins de chance. C'est ça, exactement. Deuxième question maintenant, Robert Dragon, jusqu'à quel point un juge peut-il faire dire à un article ce qu'il ne dit clairement pas? Je fais référence à l'article 23 de la Charte, et encore une fois, on est dans le jugement Blanchard sur la loi 21.
Oui, et ça, c'est très intéressant parce que le réflexe de bien des citoyens qui est légitime, c'est de se tourner vers les textes puis dire, il y a quelque chose, qu'est-ce qui est écrit versus qu'est-ce que le juge en dit. Disons qu'il faut ici distinguer le contenu explicite, ce qu'on retrouve dans les textes de la Charte, et le contenu implicite. Il faut vite comprendre, surtout en matière de droits et libertés, mais même pour l'ensemble de la Constitution, que le rôle des textes est très, très, très marginal. On est dans un système de protection qui passe par un contre-pouvoir qui s'appelle le juge, mais où le texte est très, très secondaire. Moi, j'aime dire, dans ce temps-là, je sais, je me fais très... c'est très controversé, je suscite un peu la polémique en disant ça, mais j'aime dire que la Charte québécoise, c'est un mirage. Ça n'existe pas. Dans la mesure où ce qui existe, un juge qui interprète des droits et libertés, puis il interprète autant la Charte québécoise que la Charte canadienne, et dans bien, bien, bien des cas, il a tendance à faire dire la même chose aux deux textes, même si les textes ont des différences. Donc, on peut, par exemple, on a vu ici sur l'Assemblée nationale, on entend souvent l'Assemblée développer un discours transpartisan sur l'idée que le Québec aurait son propre catalogue des droits. C'est vrai qu'il a un catalogue, mais il n'a pas son système de protection des droits et
libertés. Donc, la Charte québécoise n'a pas d'autonomie, dans le fond, interprétative.
Exactement.
C'est l'interprétation de la Cour suprême, des tribunaux canadiens fédéraux qui, finalement, imposent un sens. Parce que faut jamais l'oublier, puis ça fait partie des choses que tu répètes souvent, Patrick, que les droits n'existent pas dans l'absolu.
Ben oui,
c'est toujours par rapport à... tu sais, quand Récemment, Thomas Mulcair encore me disait « Oui, mais le juge, il défend les droits. » Attention, ça dépend comment on interprète les droits.
Exact.
Et il n'y a pas de droit sans interprétation dans nos tribunaux.
Et dans ce système de protection des droits, celui qui a un peu le dernier mot sur le contenu et le sens de ces droits-là, c'est le juge. Et dans notre système, on a un système unique avec un seul juge qui interprète les deux textes. Plus particulièrement à propos de l'article 23, les juges font un peu ce qu'ils veulent. Au début du 20e siècle, quand il y a eu, par exemple, le règlement 17 en Ontario...
Oui, qui bannissait le français.
On interdisait le français dans les écoles.
Carrément, ben oui.
C'est allé devant les tribunaux jusqu'au conseil privé de Londres.
Conseil privé,
l'espèce
ouais.
de cour suprême de l'époque. Puis l'argument qu'on disait, qui a été retenu à l'époque, c'est de dire... Non, les Canadiens français qui vivent en Ontario ou ailleurs dans le reste du Canada, ils ont des droits à des écoles confessionnelles. C'est ça qui est protégé, c'est pas la langue.
Ah oui.
Et là, on leur a dit, vous avez des écoles catholiques, mais en anglais. Mais là, aujourd'hui, le juge Blanchard, il dit exactement l'inverse. Mm-hmm. Il dit, l'article 23 vous donne le droit à des écoles dans votre langue, sur laquelle vous avez une certaine emprise, mais moi, je vais faire le raisonnement inverse de ce qu'on a fait il y a une centaine d'années. Je veux dire que la langue, ça comprend aussi des dimensions culturelles et religieuses. Donc,
un petit détail, l'article 23, c'est dans la Charte des droits et libertés.
Oui, l'article 23, il est post-82.
Il n'existait pas au moment du règlement 17. Pourquoi
exactement.
On peut faire ce télescopage-là?
Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque du règlement 17, ce qui existait, c'était l'article 93 de la Constitution,
voilà.
Qui garantissait le droit dans des écoles confessionnelles, dans des écoles catholiques et protestantes. Et là, on a dit... Vous avez vos écoles religieuses, mais on vous donnera pas la langue. Ça, on vous l'enlève avec le règlement 17. Là, les Canadiens français se sont défendus en disant langue et religion vont de pair. À l'époque, on dit non, ça va pas de pair. Aujourd'hui, le juge Blanchard, il fait l'inverse. Il dit non, langue et religion, ça va de pair. Autrement dit, ils font un peu ce qu'ils veulent parce que c'est un pouvoir sans contre-pouvoir. Hein? C'est un pouvoir qui surveille nos législateurs, nos gouvernements. Mais s'ils font dire à un texte quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte, il y aura personne pour venir dire c'est pas vrai, c'est pas ça. Et en plus, tous les principes d'interprétation qui dominent ce champ du droit, ils tendent à laisser le plus de marge de manœuvre possible aux juges. Par exemple, on refuse une preuve axée sur l'intention de ceux qui ont adopté les textes pour valoriser une interprétation évolutive, large, créative, qui s'adapte au contexte.
Ça permet au juge de dire ce qu'il veut.
Exactement. Alors, il y a la COVID, on s'arrange, on construit une jurisprudence qui fait en sorte que les décrets sont compatibles. Le lendemain, il n'y a plus de COVID, c'est un nouveau contexte. On construit une jurisprudence nouvelle. Donc, c'est une interprétation contextuelle, évolutive, qui fait en sorte qu'on a affaire à un système où le juge a beaucoup de pouvoir, pour le meilleur et parfois pour le pire. Ça fait un peu partie du jeu.
Parlant des juges encore, là, c'est François Renaud, via Twitter, qui pose la question suivante au prof Taillon. Est-ce que le juge a le droit de consulter de manière informelle les juges des cours supérieures avant de rendre son jugement?
Alors ça, c'est très technique,
mais c'est
fascinant. Donc, avant de rendre un jugement, il y a certaines cours qui fonctionnent où le projet de jugement va circuler à l'intérieur de la cour avec des juges qui vont pouvoir émettre une opinion sur les motifs de leurs collègues, mais des juges qui n'auront pas entendu la preuve, qui n'auront pas nécessairement les informations. Donc, c'est une pratique qui, à ma connaissance, est assez systématique à la Cour d'appel du Québec. Quant à la Cour supérieure, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si la Cour supérieure fait ça systématiquement. Ça a peut-être été le cas avec ce jugement. Ça a des avantages. Pour certains litiges qui reviennent souvent, là, fixer des pensions alimentaires, fixer des peines aux criminels, que le jugement circule avant, ça permet d'assurer une certaine cohérence. Des juges vont venir dire « Moi, j'ai un dossier similaire, je suis allé là », mais ultimement, le risque, c'est une atteinte au principe élémentaire de justice là, qui veut qu'un juge qui n'a pas entendu la cause, qui n'a pas entendu la preuve, qui n'a pas entendu chacune des parties, ne devrait pas avoir son mot à dire sur une décision. Alors, tout est une question de manière. Là. J'imagine que les juges, lorsqu'ils se consultent les uns les autres, sont conscients de ces problèmes-là, mais c'est effectivement une question très délicate. Disons que le besoin de cohérence d'un côté, puis le péril ou le risque que d'une injustice, là, que quelqu'un qui n'a rien entendu à l'affaire s'ingère un petit peu trop dans le processus, c'est un petit peu ça qu'il faut doser, si je peux dire.
Par ailleurs, ben, en terminant, plus globalement, il y a beaucoup de questions des auditeurs sur l'impartialité des juges ou sur les inclinaisons idéologiques de ce juge ou des juges en général.
Oui, oui, et c'est quelque chose de récurrent, surtout lorsqu'on n'est pas satisfait d'une décision, ouais. Ben, c'est normal, on a tendance à critiquer celui qui l'a rendu.
Ouais.
Et là, je pense qu'ici, il faut distinguer les problèmes micro et macro, si je peux dire. C'est-à-dire que au Canada puis au Québec, dans les aspects d'impartialité qui sont liés à vraiment qui sont très liés au parcours de vie d'un juge dans une situation, on applique des standards assez élevés. Là. Le
ouais.
grand classique, c'est le stagiaire qui débarque devant un juge. Il l'a jamais vu, il sait même pas son nom. Puis le juge se récuse parce qu'il y a 25 ans, il a travailler dans le même cabinet que ce pauvre stagiaire. Donc là-dessus, y a quand même une certaine exemplarité qui est en grand décalage avec ce que j'appellerais l'inertie quant aux problèmes plus macro, plus structurels, plus systémiques. Le mode de nomination des juges, la manière dont... qu'est-ce que notre ministre de la Justice fait aux cérémonies d'assermentation de la Cour suprême? Qu'est-ce que les juges de la Cour suprême font au discours du trône au Sénat? Il y a une espèce de mélange des genres dans notre système... de façon globale, pose problème, que ce soit l'exécutif fédéral qui nomme tous les juges des cours supérieures, ça crée un immense biais structurel. Mais après, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Si je juge le travail d'un seul sénateur, je peux dire « ce sénateur travaille bien, a cette force, cette faiblesse, c'est une chose ». Puis après ça, je peux porter un jugement sur l'ensemble de l'institution qu'est le Sénat.
C'est ça.
Et je pense que pour plusieurs nationalistes québécois en particulier, peut-être même aussi dans l'ouest du pays, le mode de nomination des juges au Canada, il est fondamentalement problématique. Mais à un moment donné, s'il ne faut pas tout mélanger, ça se peut qu'à travers ce mode de nomination, il y ait des dizaines et des centaines de juges qui essaient, eux, isolément, de faire leur travail avec le plus d'intégrité possible.
Mais il y a un problème systémique.
Exactement. Donc, il faut essayer de répartir. Et c'est un peu comme chez les journalistes. Là. On ne peut pas penser que nos juges n'ont pas de vécu, n'ont pas de biais. C'est après comment eux, ils travaillent avec ces biais-là. Ça, c'est le premier élément.
Ouais.
Et le deuxième, bien, c'est comment le système s'assure d'avoir une diversité. Pour avoir une qualité de la presse journalistique, ça prend différents médias détenus par différentes propriétés qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une diversité. Mais c'est la même chose avec nos juges. Cette diversité-là, par contre, on l'a pas avec les juges parce que, ultimement, Cour supérieure, Cour d'appel et Cour suprême viennent à peu près tous de la même table de nomination.
C'est ça.
Après, on peut pas demander aux gens qui font ce travail-là d'être des surhommes parfaits avec aucun biais, aucun vécu.
Mais quand on a un jugement qui n'est pas un jugement apaisant, pour reprendre ton qualificatif de la semaine passée, comme le jugement sur la loi 21, on peut se poser la question. On peut vraiment se poser la question. Peut-être en terminant rapidement, il y a une manifestation samedi contre la vaccination. Tu voulais peut-être revenir sur les termes du débat, les mots employés.
Oui, ben je trouve que c'est fascinant comment le droit constitutionnel influence le vocabulaire des manifestations. D'un côté, on a des termes comme « dictature sanitaire », qui est un terme un peu abusif, mais au sens romain du terme, c'était un peu ça à Rome. Hein? C'était une dictature salutaire pour faire face à un problème précis.
Ouais, ouais.
De l'autre côté, on a beaucoup de slogans autour de l'idée que chez le couvre-feu, le masque serait déraisonnable, excessif, injustifié.
Ben oui.
Ça, c'est vraiment un langage qu'on pourrait retrouver devant nos tribunaux en matière de charte. Puis, faut faire un petit mea culpa, là, les constitutionnalistes, on a une petite responsabilité là-dedans. À force de présenter des idéaux, des fondements de l'État, ben, on a pour effet de radicaliser un peu les termes du débat parce
oui.
que tous les éléments de la tarte aux pommes que l'on manipule, que ce soit la liberté, l'égalité, etc., ben, ça devient des fondements, ça devient donc des droits, des choses non négociables, et on le voit, le langage...
Des absolus,
des choses qui sont des promesses très grandes, et on voit comment l'influence du droit constitutionnel et des droits et libertés en particulier, l'influence que ça peut avoir dans une action sociale très classique, là, une simple manifestation, Et on voit aussi comment le chartisme de droite, là, qui est axé sur une méfiance à l'endroit de l'État,
oui,
très présente dans la manifestation de samedi, tout comme un chartisme de gauche qui, lui, est davantage méfiant à l'endroit de la majorité, qui était peut-être un petit peu moins présent dans la manifestation oui, de samedi, mais à la fin, c'est vraiment une espèce d'approche un peu en tunnel. J'ai mon absolu, j'ai mon droit à moi. Ça devient un fondement, c'est non négociable. Et à quelque part, comme on ne peut pas négocier, ben on reste sur nos positions et ça contribue à polariser nos démocraties, oui, et à les rendre moins flexibles, moins axées sur les compromis.
Très bien, merci beaucoup Patrick Taillon. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Le rapport Laurent sur la protection de la jeunesse vient d'être déposé et on va rejoindre Camille Bouchard. Bonjour Camille.
Oui, bonjour Antoine.
Vous aviez rédigé le fameux rapport « Le Québec fou de ses enfants ». Et là, Régine Laurent, dans sa conférence de presse, a dit qu'il faut passer d'un Québec fou de ses enfants à un Québec digne de ses enfants. Est-ce qu'il y a une différence? Entre les deux, j'essaie de saisir cette déclaration. Je me dis peut-être que Camille a une idée.
Ben, j'ai une bonne idée. C'est moi qui l'ai soufflé à l'oreille du vice-président de la commission.
Ah, voilà.
Mais, tu sais, on a souvent invoqué notre folie là, envers les enfants, puis notre amour des enfants, etc. Maintenant, ben, je pense que digne des enfants, on est dans un espace d'un petit peu plus de maturité.
OK.
On dépasse la première émotion de folie, d'amour à l'égard des enfants, de dire oui, mais une fois cela dit et assumé et éprouvé, puis bon, est-ce qu'on pourrait pas se montrer digne d'eux, c'est-à-dire se montrer responsable de leur bien-être et de leur développement tout au long de leur vie et à chaque instant de la nôtre? Se montrer digne des enfants, c'est toute une job.
Et c'est, oui, puis le rapport est d'une ampleur considérable. Je me demande comment le gouvernement va pouvoir répondre à ça. Parce que les besoins sont urgents. Je regardais là, qu'il y a eu une douzaine d'infanticides en 2020. C'est le nombre le plus élevé en 8 ans. Puis là, le rapport nous dit qu'il faut changer la loi, adopter une charte du droit des enfants, instaurer un commissaire à l'enfant. C'est toutes des affaires bureaucratiques, ça, qui vont nous prendre beaucoup de temps à établir, alors que les besoins semblent urgents. Là, c'est 12 enfants qui ont été tués l'an passé. Comment on peut réconcilier l'urgence et cette espèce de révolution très, qui me semble d'une ampleur inégalée, là, dans ce domaine-là?
Ouais, ben, je pense qu'on peut marcher puis marcher de la gomme en même temps, là. Franchement, la gouvernance, tous les aspects de la gouvernance et de l'encadrement de la bienveillance que l'on doit à l'égard des enfants, c'est une chose. Et ça peut se faire relativement rapidement, mais sans grande urgence. Ce qui est urgent, c'est d'améliorer de façon significative les services de prévention, de première ligne, de proximité auprès des familles les plus vulnérables.
C'est ça.
C'est le nerf de la guerre. Là. Bon, alors, moi, ce qui m'a un petit peu déçu durant le point de presse, et j'attendais des réponses là-dessus, j'ai écouté le point de presse attentivement, c'est qu'on ne donne aucune idée de l'ampleur des investissements que l'on doit faire pour arriver à améliorer rapidement ces services et ces programmes-là. Puis, franchement, là, je les connais bien, les services et les programmes qui ont besoin d'amélioration, là, c'est très clair. Il y a eu des témoignages devant la commission qui disaient, écoutez, au Québec, on a à peu près 2% de notre budget en santé, services sociaux, en prévention. Il faudrait l'augmenter rapidement à 4 ou 5%. Ça me surprend que la commission n'ait pas repris ça au bon. Parce que ça va être aussi ça. C'est un outil fondamental. Investir dans les services de prévention, ça veut dire engager du monde en masse, les former correctement, s'assurer qu'ils sont compétents, s'assurer que les programmes sont livrés de façon convenable, puis partout au Québec, là. Il y a des endroits au Québec, dans des régions, là, où on manque de compétences, on manque de gens qui sont formés là-dedans. Des primes pour les médecins, ça existe, mais des primes pour les travailleurs sociaux, ça n'existe pas, tu sais.
Ouais.
Il y a toutes sortes de trucs comme ça qu'on doit faire très rapidement et qui demandent de l'urgence. Et là, j'ai un petit problème avec le rapport, c'est que je trouve qu'il n'y a personne d'imputable de mettre ça sur pied dans les régions. Là, on dit, on va revoir le mandat de la directrice, du directeur associé au service enfance jeunesse dans les CIS. Oh, Seigneur. Seulement dire ça, ça me fatigue.
Oui, c'est ça. Non, mais est-ce que c'est pas un rapport trop bureaucratique? C'est l'impression que j'ai, moi. Évidemment, je ne l'ai pas analysé en détail, mais...
Non, par moment, ça l'est, mais pas... Non, il y a une belle conviction là-dedans, puis il y a un attachement à la bienveillance que l'on doit à l'égard des enfants, etc. Puis la rhétorique est loin de la bureaucratie. Quelques chapitres le sont beaucoup, dont celui, malheureusement, celui sur le leadership. Et alors, tu sais, d'un côté, on dit, ah, ça devrait être une priorité de santé publique. Madame Laurent l'a répété là, durant le point de presse. Puis ensuite, on dit, ben, on va modifier le mandat de la directrice associée au service jeunesse, enfants, famille dans les CIS, mais une chatte ne retrouve pas ses chatons à cette organisation-là. C'est comme si on n'avait pas voulu toucher à la réforme de M. Barrette de peur que, là, tu sais.
Oui, oui.
Puis là, on me dit, ah oui, mais, tu sais, on me dit, oui, mais faire ça, là, c'est encore une fois retomber dans l'affaire des structures.
Mais, oui, Camille, qu'est-ce que la réforme Barrette a à faire là-dedans? Rappelons-le à nos auditeurs. Qu'est-ce que ça a fait comme bouleversement?
Ben, ce que ça a fait comme gouvernement, notamment en direction de la protection de la jeunesse, ça a été drastique, là. Il y a un tiers des postes qui ont disparu. L'association des centres de jeunesse a été dissoute faute de financement. On a intégré la protection de la jeunesse elle-même, la direction de la protection de la jeunesse dans les six.
Oui.
Puis là, le rapport Laurent ne les sort pas de là. Ce qui fait que leur voix dans les six est perdu à travers toutes sortes d'autres considérations.
Oui.
Autrement dit, ça a été comme une espèce de raz-de-marée. On va éliminer toutes les directions qu'on pense inutiles dans la vie, y compris les directeurs de supervision clinique qui étaient indispensables à la qualité des services. Là. Bon, ceci étant dit, garde, c'est fait. Mais on aurait pu le défaire. C'est pas parce qu'on met un sac de plastique sur la tête de quelqu'un et on dit, ah, c'est une erreur, mais on va pas y toucher parce que on va encore toucher à la structure. Non! Moi, je pense qu'il aurait fallu prendre des dispositions extrêmement importantes là-dessus. Et, notamment, en ce qui concerne la prévention, désigner une personne imputable. Pas dire on va changer le mandat de la directrice. Dire on va désigner une personne imputable qui est capable de rassembler autour d'une même table tout ce qui grouille dans une région pour arriver à réduire le nombre de signalements à la protection de la jeunesse. Autrement dit, mettre des services de prévention qui ont de l'allure. Et moi, j'avais l'intime conviction qu'on pouvait confier ça aux directeurs régionaux de santé publique qui ont le pouvoir d'interpeller tous les intervenants dans une région autour d'une situation ou d'un problème social qui apparaît comme mettre en péril la santé ou la sécurité de la population.
Ouais.
C'est déjà dans la loi. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas allés là, mais à mon avis, la question du leadership, c'est la grande faiblesse de ce rapport-là.
Et la meilleure, la plus grande qualité de ce rapport-là, en terminant, Camille?
Mais c'est la conviction qu'on met à la prévention et la considération que l'on a pour la souffrance des intervenants qui sont dans ce système-là et toutes les recommandations à l'effet de mieux pourvoir ces intervenants-là de conditions de travail qui ont de l'allure. Ça, là, c'est vraiment très fort, c'est très bien fait. On sent qu'il y a là des avancées assez importantes pour ce monde-là.
Très bien. Merci infiniment, Camille, pour cette conversation à brûle pour point sur cet énorme rapport et ce chantier gigantesque.
Au revoir, Antoine.
Au revoir. Je rappelle que Camille Bouchard est psychologue, auteur de « Un Québec fou de ses enfants », un rapport important qui a fait date, déposé en 1999, et il est aussi l'ancien député péquiste de Vachon. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.